Bienvenue sur le C2 Podcast, le podcast du C2RP Carifor-F des Hauts-de-France. Le C2 Podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'un expert ou bien d'acteurs du terrain pour partager avec eux leur vision, leurs pratiques professionnelles ou encore leurs projets. Son principal objectif consiste à rapprocher les acteurs du monde de l'orientation, de la formation et de l'emploi.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du C2 Podcast, épisode qui est consacré aujourd'hui à un outil, à un instrument numérique qui devrait piquer votre curiosité. Nous allons parler aujourd'hui des Open Badges. Vous avez bien entendu, j'ai dit Open Badges. Un outil qui accompagne depuis des années l'évolution de la formation et de l'apprentissage. Pour y voir clair dans ce concept, puis on verra si ça n'est qu'un seul concept, entre badge, métadonnées, ludification, reconnaissance de compétences, réalisation ou encore engagement, j'ai le plaisir de recevoir Chris Delepierre, qui est changemaker chez Trésorium, mais aussi président de EdTech Hauts-de-France et membre de l'association Reconnaître. Bonjour Chris, bienvenue. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous en dire un petit peu plus à votre sujet et à propos du choix de ce thème pour le C2 Podcast?
Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, qu'est-ce qu'un Open Badge, hein? C'est déjà la première question. Un Open Badge, c'est un outil numérique au service d'une reconnaissance. Donc, typiquement, qu'est-ce que c'est? Techniquement, c'est une image, voilà, auquel on va ajouter des informations, ce qu'on appelle des metadata, des métadonnées, qui vont permettre de avoir comme information qui a donné le badge, qui l'a reçu, quand, les critères d'attribution, la description du badge et puis éventuellement des preuves associées. Ce qui permet de donner une reconnaissance et surtout de garder une trace de cette reconnaissance parce que le badge, voilà, on le reçoit notamment par mail, on peut ensuite l'ajouter dans un sac à badge, ce qu'on appelle un backpack en anglais, mais voilà son sac à badge. Il y a des plateformes dédiées à ces sacs à badges. Et ensuite, ces badges, on peut surtout les partager. Les partager sur les réseaux sociaux, partager sur son CV, les partager sur des profils, ce qui permet de valoriser sa reconnaissance reçue.
On va essayer d'y voir encore un peu plus clair, parce que c'est une nouveauté, je le présume, pour tout le monde. C'est une découverte, pour le plus grand nombre en tout cas. Depuis quand ça existe, les Open Badges?
En fait, les 10 ans des Open Badges, hein, donc c'est en 2011, la Mozilla Firefox, hein, que vous connaissez, le navigateur, et donc les communautés de développeurs autour de cet outil ont imaginé ce standard, parce que c'est un standard, ce qu'on appelle open source, donc il est libre de droit. Derrière, c'est des codes informatiques, hein, derrière ce standard. Et donc, voilà, Mozilla Firefox a inventé ce standard informatique qui est l'Open Badge. Et donc, depuis 10 ans, se développent des communautés, des outils, des plateformes, tout un écosystème pour que se crée et se développe ces reconnaissances qu'on appelle ouvertes. Parce que l'enjeu derrière cet outil, c'est que chacun peut être reconnu par ce qu'il est. Et que, certes, des institutions peuvent donner des badges et donc des micro-certifications, des reconnaissances aux apprenants, mais tout à chacun également. Donc chacun peut être acteur de sa reconnaissance, peut se reconnaître des choses, mais aussi reconnaître à d'autres, entre pairs. C'est ce que permettent aussi ce standard open source.
On y voit encore un peu plus clair. Simplement, je me pose une question. En termes de reconnaissance de compétences, de connaissances, on a quand même un certain nombre de choses qui existent. On a les diplômes, on a les certificats, on peut recevoir des attestations. Si je suis un MOOC, je vais recevoir un certificat. Quelle différence peut-il exister, s'il en existe, entre ces points que je viens de citer et les Open Badges?
Alors souvent, on confond l'outil qui porte la certification et la certification en elle-même. Le badge, c'est juste l'outil qui va porter cette reconnaissance. Donc on peut mettre un diplôme, si on le souhaite, derrière un open badge, mais aussi on peut ajouter ou en tout cas reconnaître tout type de choses. Donc ça va être par exemple des compétences, des blocs de compétences, des connaissances, des pratiques, des expériences, des participations à des événements, des ateliers, des soutiens, des valeurs, des contributions à un projet, des engagements, des centres d'intérêt, etc., etc. Donc en fait, voilà, on peut ce qu'on appelle faire de la reconnaissance dite informelle, c'est-à-dire qu'il y a la reconnaissance formelle classique avec les micro-certifications, les diplômes, etc.
Tout ce que je viens de citer.
Voilà. Mais aussi derrière le badge, on peut justement introduire cette notion de reconnaissance informelle qui sont soit des étapes dans un parcours d'apprentissage, soit des réussites qui ne sont pas forcément scolaires ou académiques ou certifiantes, mais qu'on souhaite quand même donner à l'individu. Et donc, en fait, on peut rendre visible l'invisible, notamment dans les tiers-lieux, on apprend énormément de façon informelle, je dirais, avec ses collègues, en stage, dans des situations pas forcément formelles de formation. Et donc, tout ce champ-là, cette partie de l'iceberg, finalement, qui n'est pas valorisée, les badges sont un outil pour rendre visible, finalement, cet invisible, de rendre visible, finalement, tout ce qu'on a appris, mais de façon non formelle et donc non diplômant, entre guillemets, habituellement.
On est sur le champ qui nous voit combler des lacunes qui auraient pu exister, c'est-à-dire que si je comprends bien, je peux recevoir des badges pour une progression que j'aurais pu réaliser pour des attitudes, par exemple ce que l'on appellerait peut-être des soft skills, qu'on pourrait me reconnaître, si je comprends bien, peut-être pas revendiquer, peut-être, on verra si je peux revendiquer aussi. Est-ce que ça vient, justement, les open badges viennent combler cette lacune, puisqu'on ne me reconnaîtrait pas sans cette initiative, ce genre de qualité, je vais les appeler qualité, ou est-ce que c'est un changement de paradigme ?
Ben, déjà, c'est déjà le fait de reconnaître ce qui n'est pas actuellement reconnu, vous avez dit, donc ça représente quand même énormément dans le pourcentage, entre guillemets, de ce qu'on apprend de façon informelle, par l'expérience, la pratique, ou par notre entourage, etc. Ça représente plus de 90%, hein. Après, c'est pas scientifique, mais voilà, ça représente énormément de choses. Donc déjà, les badges permettent de rendre visible cet aspect-là. Puis derrière, c'est vrai que c'est un changement de paradigme dans la reconnaissance, parce qu'on a tendance à penser la reconnaissance habituellement comme formelle, c'est-à-dire une institution, un professeur, un expert qui va délivrer des reconnaissances à des apprenants. Là, les badges, ça ouvre un champ de la reconnaissance qu'on appelle reconnaissance ouverte, où là, chacun peut soit se reconnaître soi-même des talents qu'il estime qui ne sont pas reconnus comme tels, ou bien reconnaître d'autres. Et entre communautés, entre pairs, et ce qu'on imagine également dans les tiers-lieux, qui sont ces nouvelles formes de lieux, mais partagés avec une communauté de pratique, notamment, je pense au Fab Lab, au coworking, ou l'émergence de tous ces labs, eh ben, on apprend énormément de choses. Ce sont les pairs qui peuvent nous reconnaître des expertises, des compétences acquises dans le cadre de ces labs et qui, ensuite, ces reconnaissances permettent de le valoriser pour son employabilité, son insertion professionnelle et plus largement pour garder une trace de ce qu'on a appris.
Avant de s'intéresser aux mécanismes, parce que là, on voit qu'il y a effectivement un changement de paradigme, avant de s'intéresser donc aux mécanismes de délivrance des badges, en particulier d'exploitation des badges, de reconnaissance des badges, et donc leur champ d'application, je me fais juste une petite remarque et je voudrais éclaircir un point. Dans le nom, il y a certes badge et il y a open. Alors j'ai entendu open source tout à l'heure. Est-ce que je fais la bonne association ? Ça, c'est un mot difficile à prononcer, en pensant à open source quand on dit open badges.
Oui, c'est ça. Hein. Ça vient de là, en tout cas, cette notion de open, hein, d'ouverture finalement, et donc déjà du standard informatique, mais également de la reconnaissance qui est sous-jacente, la reconnaissance ouverte, puis plus largement des écosystèmes. Parce que la notion d'open badge est intimement liée à une notion d'écosystème sur la question de la valeur du badge. Comment le badge a de la valeur ? Il faut qu'il soit apprécié par une structure, par un pair, par quelqu'un. Et donc pour lui donner de la valeur, généralement on va travailler l'écosystème de reconnaissance, c'est-à-dire qui va reconnaître le badge. Ça peut être un employeur, ça peut être un organisme de formation, ça peut être une filière thématique. Par exemple, ça va être un ensemble de structures sur les tiers-lieux, ça va être des acteurs de la médiation numérique si c'est sur la médiation numérique, ça va être les acteurs de l'éducation, ça va être les acteurs de la formation, etc. Mais en tout cas, le badge, quand on va le créer, on va justement travailler en écosystème ouvert avec plusieurs structures pour que les badges émis par telle structure soient reconnus par telle autre. Et que le badge en tant que tel puisse être finalement un passeport, créer des passerelles entre différentes structures. Ce que permet la technologie par des systèmes de ce qu'on appelle d'endossement, de recommandation. Sur le badge, on peut afficher les endossements et donc l'ensemble de l'écosystème qui reconnaît la valeur du badge émis.
D'accord. On y vient justement. Donc on comprend qu'il existe des différences avec les dispositifs que l'on connaît. Et intéressons-nous un tout petit peu plus au fonctionnement, c'est-à-dire si je veux donner naissance à un badge, comment ça se passe ? Qui va fixer les règles ? Est-ce que j'ai le droit de faire ce que je veux ? Y a-t-il des règles à suivre ? Est-ce que je peux être émetteur de badge, c'est-à-dire fabricant en quelque sorte, et donc créer mon propre référentiel ? Est-ce que j'ai le droit de les décerner ? Est-ce qu'ils peuvent être reçus librement et à ce titre reconnus ? Comment fait-on ? Quel serait un parcours classique de création et de délivrance et même de reconnaissance d'un badge ? Un cycle complet.
Alors, il n'y a pas de règles, mais il y a des bonnes pratiques.
C'est pas une colle, hein.
Il y a des bonnes pratiques, il n'y a pas de méthode unique, mais globalement, alors ça dépend si on est un individu ou si on est une structure qui souhaite émettre des badges. En tout cas, dans les deux cas, il y a des plateformes qui permettent de créer les badges, de les émettre et ensuite de les recevoir. Donc, par exemple, vous avez Badger, Badge Factor, Diva, Open Badge Factory, Open Badge Passport. Donc ça, c'est des plateformes. Donc, généralement, si on est une structure, on va créer un compte, par exemple, sur Open Badge Factory pour pouvoir créer les badges et les délivrer. À partir de là, en fait, on va réfléchir à quelle architecture du système de badge on souhaite créer, parce qu'il ne faut pas créer trop de badges dans le sens où ça va, en tout cas, la reconnaissance va être floue, va être dispersée, etc. Et il ne faut pas en créer non plus trop peu, parce que sinon, ça risque aussi de ne pas être assez significatif. Donc, il y a un bon équilibre à trouver. Généralement, ce qu'on va faire, on va créer un comité de reconnaissance avec à la fois des bénéficiaires du badge, à la fois ceux qui vont émettre les badges, à la fois avec aussi des partenaires. Et cet ensemble de personnes va déjà se familiariser, se former aux open badges, puis surtout se définir qu'est-ce que je souhaite reconnaître. Donc, par exemple, dans un contexte d'organisme de formation, qu'est-ce que je souhaite reconnaître chez mes apprenants ? Quelles sont les compétences ? Qu'est-ce qu'ils réalisent comme expérience et qui pourrait donner suite à l'obtention d'un badge, par exemple. À partir de là, voilà, quand on a cette matière à la fois de typologie de badge qu'on souhaite créer, des noms des badges, de leur contenu, on va passer à une étape plus technique qui va être de créer les badges tout simplement sur la plateforme et avec la question du visuel, parce qu'un badge, c'est avant tout un visuel. Et c'est ça aussi qui fait la valeur ajoutée de cet outil, c'est-à-dire que c'est une image, et donc une image un peu sexy, c'est graphique, donc ça donne envie, je dirais. Donc il faut avoir un graphisme qui soit suffisamment expressif, qui soit aussi dans la charte graphique de l'ensemble aussi des badges. On peut s'imaginer des parcours, parce qu'après on peut jouer sur les différents badges pour créer des parcours apprenants ou des parcours thématiques. Donc dans les badges, on intègre des notions de méta-badge, c'est-à-dire des badges clés, qu'on obtient uniquement à partir de badges intermédiaires, et donc on peut jouer sur des niveaux également, un peu comme dans les jeux vidéo. Hein. Et donc voilà, on va jouer sur ces différentes échelles, sur différents parcours, et donc on va techniquement créer les badges. Généralement, en termes de méthode d'attribution des badges, on passe par des formulaires de demande, c'est-à-dire que c'est par exemple l'apprenant qui va demander l'obtention d'un badge, donc il faut aussi créer le formulaire de demande du badge, et là on peut aussi ajouter des questions d'évaluation, si c'est dans le cadre d'une certification, par exemple, des questions liées à la satisfaction, pourquoi pas si c'est un événement, et puis surtout poser des questions, qu'est-ce que j'ai retenu de l'expérience. Donc en fait, là, le badge va participer à la démarche réflexive, parce que en demandant l'obtention du badge, l'apprenant va prendre conscience finalement de ce qu'il a appris et de ce qu'il souhaite valoriser. Et donc ensuite, plusieurs possibilités, soit c'est délivré automatiquement, soit il y a un examinateur qui valide l'obtention du badge, ou bien c'est un pair qui a déjà obtenu le badge qui va pouvoir le délivrer. Et donc et ensuite le process, c'est la personne reçoit le badge par mail et puis il peut le valoriser sur la plateforme, par exemple du Open Badge Passport. Donc voilà globalement comment ça marche. Après, l'enjeu, c'est de faire vivre la dynamique, faire vivre la reconnaissance. Donc il y a aussi des étapes qui vont passer par expliquer ce qu'est les open badges aux bénéficiaires des badges, de pouvoir associer justement ses partenaires pour endosser les badges. Donc voilà, c'est quand on a créé les badges, finalement, c'est que la première étape avant de faire vivre finalement ce système de reconnaissance pour lui donner de la valeur.
Très bien. Je viens d'entendre, par exemple, que l'on pouvait recevoir un badge qui va venir sanctionner quelque chose que j'ai appris. Mais par exemple, si je me trouve dans une situation, quelque part, d'une forme de précarité, si je suis en recherche d'emploi, peut-être en recherche d'emploi depuis longtemps, comment est-ce que je peux... Est-ce que les badges peuvent aussi venir permettre de remplir ce CV, je crois que vous avez utilisé cette expression au tout début du podcast, hein, de venir compléter mon CV pour me permettre de faire reconnaître, j'utilise là aussi le terme, me permettre de faire reconnaître des connaissances, des capacités, je ne sais pas si l'expression est juste, des attitudes, ou en tout cas quelque chose qui me permette de valoriser ce que je suis, ce que je sais faire, ce que je suis capable peut-être même de faire à partir du corpus dont je suis déjà possesseur, détenteur.
Alors oui, par exemple le passeport permet à se délivrer ce qu'on appelle des selfie badges, donc des badges qu'on se délivre à soi-même, et donc on peut se créer des badges et se les attribuer pour justement reconnaître ce qui n'a pas été reconnu par le système académique par exemple. À partir de là, pour lui donner de la valeur à ce badge, si on s'auto-attribue un badge, c'est pas la légitimité de celui qui va l'offrir qui va donner de la valeur au badge, parce qu'on peut s'auto-attribuer n'importe quoi. D'où l'enjeu de l'endossement, donc de solliciter finalement sa communauté de pairs pour pouvoir recommander finalement, la personne affirme tel talent, telle compétence, telle capacité, oui, je la recommande, je confirme. Cette expertise. Donc voilà, on peut travailler sur ça et on peut imaginer à terme que les badges permettent de faire des formes de VAE souples, les validations de l'expérience où voilà, je me recommande ou d'autres me recommandent des compétences, etc. Je puisse faire ensuite endosser ces compétences ou ces expertises par une institution a posteriori, qui va me valider finalement cette compétence que je me suis à la base reconnue, mais qui n'était pas visible et que j'ai rendu visible finalement. Après, on peut ajouter des preuves. Ça aussi, dans les badges, ce qui est intéressant, c'est que la notion de portfolio numérique est intégrée. Donc j'ajoute des documents, des vidéos, des photos, des informations à mon badge pour l'enrichir. Donc le badge est finalement une matière vivante, c'est-à-dire qu'on peut, la faire vivre après l'avoir reçue. Par rapport à un diplôme qui est fixe, là je reçois mon diplôme, c'est un papier généralement, je ne peux rien y faire. Le badge, à contrario, on peut justement l'animer. Donc lui ajouter.
Il a une espérance de vie.
Voilà.
Ou en tout cas, il peut changer de vie ou muter.
Voilà,
pour rester dans une actualité assez, assez récente.
Alors on peut aussi donner une expiration à un badge, hein, techniquement c'est possible, mais c'est vrai qu'il a. Le but c'est de le faire vivre, de le repartager, etc. Sachant que on peut aussi imaginer des badges potentiels. Donc ça, c'est des nouvelles formes, hein, mais se dire que voilà, je veux devenir entrepreneur du changement, par exemple, je veux créer mon entreprise, on pourrait créer un badge, voilà, je suis créateur d'entreprise, même si je ne l'ai pas encore créé, mais c'est a posteriori que je vais prouver la valeur de ce badge en y ajoutant des preuves. Et donc, voilà, on introduit une autre notion qui n'est pas que des badges liés au passé, liés à une expérience passée, mais aussi des badges liés au futur. Qu'est-ce que finalement je veux devenir ? Donc des badges plutôt de potentiel, ce qui permet à l'individu aussi de se projeter, de se donner des objectifs, finalement qui sont des prétextes à une projection d'avenir. Et le fait de le revendiquer, c'est en quelque sorte une première pas vers la réussite, vers une profession autoréalisatrice par exemple.
D'accord. Et on en est où alors finalement ? Parce que c'est merveilleux ce que l'on dresse comme tableau. Je peux faire reconnaître de mon propre chef, on peut me reconnaître aussi tout un tas de choses. Est-ce que des badges que j'aurais reçus, par exemple ici, dans la région des Hauts-de-France, en ayant fréquenté une école, une université, en ayant travailler ici, est-ce que je peux emporter mes badges et surtout, je peux les emporter où je veux ? Ça, je pense que oui, mais est-ce qu'ils seront reconnus lorsque je vais changer, par exemple, de région, lorsque je vais changer de pays, voire de continent?
Alors, techniquement, oui, dans le sens où le standard Open Badge permet une interopérabilité des standards. Il est ouvert et donc il est pérenne. Donc, c'est vrai que techniquement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Pédagogiquement et d'un point de vue de la reconnaissance, tout dépend justement du travail qui a été fait de la reconnaissance entre acteurs, donc les passerelles qui peuvent être faites. Donc c'est comme des référentiels de compétences qui sont reconnus, sauf que là, c'est des référentiels dynamiques de compétences parce que ça vient un peu du terrain, on va dire. Et donc les badges sont créés en fonction des pratiques sur le terrain. Mais c'est vrai que pour qu'il y ait cette reconnaissance et donc cette interopérabilité de reconnaissance, entre guillemets, il faut justement travailler cette notion de soit à l'échelle territoriale de badgeons un territoire, par exemple, avec plusieurs structures qui vont s'accorder sur des référentiels communs de badges, qui vont se recommander des badges. Et donc, ça peut se penser à l'échelle nationale avec des grands réseaux. Hein. Je pense dans l'éducation, il y a Réseau Canopé, par exemple, qui travaille sur des badges. Il y a des universités. Il y a plusieurs... Le CNED, par exemple, travaille aussi sur des systèmes de badges. Donc, on peut imaginer des badges aussi à une échelle nationale qui soit reconnue à une plus large échelle. Généralement, à l'heure actuelle, on est beaucoup sur déjà une échelle territoriale et régionale qui permet déjà à ce que des badges émis par telle structure soient reconnus par telle autre.
J'ai entendu l'expression « badger un territoire ». Et puisque nous sommes le C2 Podcast, je me dois de poser la question, y a-t-il des déploiements, y a-t-il des expérimentations en Hauts-de-France ?
Alors oui, on a créé, en mai 2021, on a lancé la dynamique « Badgeons les Hauts-de-France ». Donc à l'échelle régionale, dont l'enjeu est de créer un écosystème régional de la reconnaissance ouverte. L'enjeu, c'est justement que les Hauts-de-France soient un territoire apprenant et reconnaissant, et c'est-à-dire un territoire qui développe, reconnaît, valorise et connecte les talents en région Hauts-de-France grâce à cet outil des Open Badge. Donc ce qu'on fait, c'est on rassemble des acteurs de différentes thématiques, comme l'éducation, comme la formation, comme l'insertion professionnelle et sociale, comme... les professionnels liés à l'entrepreneuriat des jeunes, liés au Fab Lab, liés au tiers-lieu, liés à la médiation numérique, par exemple, et on les rassemble et ensemble, ils travaillent à des référentiels communs d'Open Badge pour qu'il y ait justement cette reconnaissance mutuelle et que les badges émis par telle structure soient reconnus par telle autre. Les badges, techniquement, permettent de cartographier les personnes qui ont le même badge. Donc ça, finalement, les plateformes de badges deviennent des réseaux sociaux parce que je peux identifier qui a eu le même badge que moi, ou qui a eu tel badge et donc me connecter à des potentiels talents sur, par exemple, du recrutement, et rendre visible des communautés. Par exemple, je peux voir ma communauté, des personnes qui ont le badge de soutien à ma communauté, par exemple, et donc automatiquement, entre guillemets, les cartographier. Donc en fait, il y a plein d'usages qui restent à inventer à partir de cet outil, finalement, qui, au-delà de l'acte de reconnaissance, la permet, grâce au numérique, de démultiplier, finalement, des usages liés aussi à la data, également, hein, qui est encore très peu exploité, mais qui pourrait permettre, demain, de faire des recherches très qualifiées de profils atypiques. Et les plateformes aussi, c'est des moteurs de recherche de badges, donc on peut rechercher des expertises, rechercher des formations, donc on peut découvrir des opportunités aussi d'apprentissage. Si je cherche telle formation sur telle compétence et qu'il y a un badge associé à la formation, je peux rendre visible finalement une opportunité d'apprentissage. Donc finalement, il y a plein d'usages à inventer à partir de ça et c'est ce qu'on essaye déjà de faire à échelle des Hauts-de-France. Il y a aussi badgeons la Normandie, badgeons le Centre-Val de Loire, badgeons la Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, il y a des collectifs territoriaux qui sont animés par l'association Reconnaître en France qui justement promeut les open badges et la reconnaissance ouverte. Mais voilà, à l'échelle des Hauts-de-France, il y a une dynamique qui s'est créée. Voilà.
Donc on voit bien les ambitions, on va dire, territoriales. Et maintenant, un cas vraiment, vraiment hyper concret, s'il en existe.
Deux exemples en Hauts-de-France.
Formidable.
Le premier, je travaille là avec le groupe Vitamine T, qui est un groupe d'insertion par l'activité économique, dans le cadre d'un PIC, d'un plan d'investissement dans les compétences 100% inclusion. Et là, l'enjeu est de badger finalement des demandeurs d'emploi très éloignés de l'emploi pour déjà leur redonner de la confiance et du pouvoir d'agir. Parce que déjà, en tant que tel, recevoir un badge, c'est recevoir une reconnaissance. Et donc, ça peut être déjà une première étape à retrouver de la fierté et sur certains badges qui peuvent être liés à des compétences liées au numérique, bah, servir aussi à l'employabilité et à la valorisation des badges. Donc voilà, c'est le pic qui s'appelle Destin. Et dans le cadre de ce Destin, finalement, on a un parcours de badges pour des parcours singuliers de personnes. Et voilà, les coachs qui accompagnent ces personnes très éloignées de l'emploi bah, peuvent leur délivrer des badges en fonction de leur diagnostic, en fonction de la progression. Donc c'est comment on rend visible une progression également des personnes. Deuxième exemple, c'est l'association Cadabra dans le Pas-de-Calais, à Bapaume, qui, avec des allocataires du RSA, organise une coopérative de savoir. Donc les personnes s'échangent entre elles des savoirs, donc, par exemple de la cuisine, du tricot, etc., et s'organisent des séances de reconnaissance. Et donc, les personnes bénéficiaires créent elles-mêmes des open badges en communauté, en fonction de ce que les personnes souhaitent se faire reconnaître. Et donc, voilà, le processus en tant que tel, finalement, est plus important que le résultat, c'est-à-dire que le fait de, ensemble, créer des badges, ensemble, se reconnaître des talents, aussi petits soient-ils, permet déjà aussi de retrouver une confiance en soi et de se remettre dans une perspective d'orientation, d'insertion ou de recherche d'emploi. Et ensuite, le badge permet une narration, c'est-à-dire que devant l'employeur, la personne peut raconter finalement l'expérience derrière l'image du badge qu'elle a valorisé sur son CV, par exemple. Donc, c'est aussi, ça peut être un outil, un prétexte à avoir confiance et à raconter finalement des expériences singulières qui n'auraient pas été reconnues dans un parcours, un diplôme classique, par exemple.
Deux exemples concrets et remarquables. J'ai une dernière question, Chris, à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre. Au cours de cet entretien, combien est-ce que j'ai reçu de badges ?
Je peux vous en délivrer un pour la qualité de l'animation et du podcast.
Merci, c'est très généreux. Un grand merci Chris pour votre temps, cet entretien et tous ces précieux éclaircissements quant aux Open Badges qui, on l'entend, on l'a découvert, est un projet, je vais appeler ça comme ça, un projet encore en construction, en cours de déploiement avec des ambitions, mais néanmoins avec une assise qui est importante puisqu'on l'a entendu en tout début d'entretien, les Open Badges ont 10 ans. On a la fondation Mozilla qui se trouve derrière, c'est pas n'importe qui, c'est pas un projet qui vient de n'importe où, et on attend d'en savoir encore un petit peu plus à l'avenir. Un grand merci.
Merci à vous, on est au temps des pionniers, donc voilà, il suffit de se lancer.
Et pour toutes celles et ceux qui voudraient en savoir plus, eh bien, accompagnant ce podcast une fois qu'il sera en ligne, on trouvera des références qui nous renverront donc à des données pour en savoir un petit peu plus, des informations complémentaires. Un grand merci, à bientôt, au revoir.
Merci.
Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode du C2 Podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou avec toute personne pour laquelle il sera intéressant et utile. Laissez-nous librement un commentaire, posez-nous vos questions sur le sujet traité par le podcast ou encore faites-nous part de vos idées pour un prochain C2 Podcast. Et pour ne rien manquer de notre programmation, abonnez-vous au C2 Podcast sur vos plateformes préférées, Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Vous ne manquerez aucun épisode.